vais d'abord présenter le LALCA et vous êtes venu accompagné de Virginie Jancier. Donc merci d'être là déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi je vais faire une petite introduction à votre venue parce que donc, je vais vous expliquer pourquoi on a invité le LALCA. D'abord, je crois que vous avez commencé en 2020 un projet hospitalité à peu près, 2018. Bon, donc ça fait déjà un petit temps que vous êtes, que vous travaillez sur...
2016.
Ok. Donc, ouais. Donc déjà, voilà, il y a... Il y a cet énorme travail d'enquête que vous avez fait au Bain-Douche de Lyon. Que vous avez aussi exploré l'habité éclaté, qui est l'une de vos notions que vous explorez. Donc, vous explorez les constellations de l'habité... Se laver, se nourrir, dormir, s'informer, etc. Et donc moi, en fait, j'ai découvert vos travaux en faisant mes recherches. En fait, j'étais parti d'une autre recherche-création qui a eu lieu à Grenoble entre 2016 et 2018 avec une chercheuse qui s'appelle Sarah Megjian et une artiste qui s'appelle Marie Moreau, plasticienne. Qui ont créé des cartographies sensibles et narratives pour médier les récits de migrants à Grenoble. Et en faisant ce travail-là, elles ont aussi accompagné tout un travail, une installation de migrants sur le campus Saint-Martin-d'Air, qui s'appelle le Passion. Et donc ça a été un moment militant donc, pour... arriver à trouver un lieu pour héberger ces personnes. Et ça a été aussi un moment pour ces deux personnes de penser comment est-ce qu'elles pouvaient garantir une espèce d'hospitalité un peu plus pérenne. Et donc elles ont réfléchi à partir du droit d'auteur pour essayer de forcer le droit d'asile. Donc elles ont créé un spectacle avec ces personnes où chacune des personnes qui prend part au spectacle est co-auteur. Et en tant que co-auteur, ne peut pas être éloigné de la troupe sans détruire l'œuvre en cours, en fait, l'œuvre en cours qui sont les représentations. Et donc voilà, donc elle a travaillé avec des avocats, elle a travaillé avec sur plusieurs années. Et en faisant ses recherches sur le campus, donc quand j'étais étudiant à Grenoble, j'en suis venu à découvrir votre travail qui traite aussi de l'hospitalité et qui prend aussi appui sur une recherche-création. Donc voilà, je voulais faire le pont sur le besoin de recherche-création et des moments pour amener aussi d'autres manières d'aborder des questions qui sont importantes et que peut-être dans nos recherches un peu plus académiques, on n'arrive pas forcément à aborder ou alors on est vite contraint. Et donc la recherche-création est une manière d'amener aussi d'autres questions ou d'autres manières de proposer des manières de voir. Les problèmes posés et donc voilà, je crois que je vais vous laisser la parole pour nous présenter vos travaux et merci encore d'être là.
Du coup on va essayer de faire plus court que ce qu'on avait imaginé parce qu'on est très bavard, on est hyper nombreux et on peut tenir 4 heures facilement. Donc l'idée c'était d'être un peu plus court parce qu'on s'était dit aussi que on pouvait être dans une conversation avec Lolita qui va nous raconter des choses après et du coup ça laissait plus de place à la conversation entre nous et donc on va essayer de vous raconter ce qu'on fait tout en étant en s'éparpillant pas trop. Voilà. Du coup, nous, on s'appelle LALCA, on est un laboratoire des romans de recherche et de création. On a été fondé, LALCA a été fondé par des architectes qui avaient quand même envie de transformer les villes. Je reprends une phrase de Céline hier qui dit qu'il n'y a pas de république. En fait, il n'y a de république qu'à partir du moment où il y a un réseau d'équipements dont on use en commun. En fait, c'est tout le travail qu'on a mené sur les bains-douches à Lyon. Et donc, on est aussi venu avec Virginie Jancier qui est... archiviste aux archives municipales de Lyon et en fait une partie du projet a consisté aussi à déposer aux archives mais on va vous en parler juste après. Quand on a lancé le projet hospitalité effectivement en 2016, une des en raccourcissant un peu le schéma de pensée, mais on a décidé de travailler sur la question de l'habiter éclaté, c'est-à-dire que l'ensemble des besoins qui a lieu dans un logement conventionnel au même endroit se retrouvent éclatés sur le territoire à partir du moment où on est hors logement conventionnel. Donc on est contraint de se déplacer pour manger, se laver, faire l'amour, etc. etc. Et donc on a travaillé sur cette question d'habiter éclaté, et on a, le projet Hospitalité, c'est une réflexion sur la morphologie de cet habiter.
Et en 2018, on décide d'aller étudier un besoin plus spécifique qui est celui de se laver. Et quand on est en précarité, comment on se lave? Et bien, un des outils, c'est les bains-douches publics. Alors, on arrive en 2018 aux bains-douches municipaux. C'est un établissement, c'est le seul établissement municipal à Lyon. C'est à Gerland, c'est dans le 7e arrondissement, donc c'est plutôt le sud, un ancien quartier. Industriel et en bord d'une ancienne cité HBM. Voilà, rapidement, ça c'est les bains-douches. L'idée, c'est que ces bains-douches, en fait, ils sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30, de manière inconditionnelle et gratuite. C'est-à-dire, n'importe qui peut y aller, sauf les mineurs qui doivent être accompagnés, mais sinon, c'est ouvert à tout le monde. Il y a plus ou moins 22 cabines parce que ça change selon. Enfin, il y en a une qui a été transformée pour pouvoir faire un accès ascenseur. Il y a environ 200-250 personnes par jour qui viennent prendre une douche. Avec parfois, il y a une augmentation ces derniers mois, ça peut aller jusqu'à 400 personnes par jour. La douche est limitée à 20 minutes. Voilà.
Et du coup, la manière dont on fonctionne, c'est que quand on arrive au bain-douche, donc en 2018, on fonctionne sous le principe des résidences, donc on s'installe là-bas longtemps, de manière très visible. Et la première fois qu'on s'installe, on pose une grande question comme ça, qui devient à la fois hypothèse de départ, postulat, élément poétique, etc. Et qui va nous permettre de comprendre, justement, en fait, on s'installe longtemps, parce que l'objectif quand même, Marie-Gosson, c'est d'enregistrer les gens qui viennent au bain-douche, considérant qu'ils ont une expertise, leur expérience urbaine est une expertise indispensable pour concevoir de la ville, pour concevoir de la ville inclusive. Quoi.
Et donc pour aller à la rencontre des personnes et pouvoir recueillir ces paroles, ces témoignages, on a créé un dispositif qu'on a appelé campement sonore. Donc comme l'a dit Julie, on s'installe sur le temps long. C'est minimum une semaine de présence, plusieurs fois par an. Et il y a plusieurs, on peut dire que le campement, il se déploie, il y a trois espaces-temps, entre guillemets. On a d'abord ce qu'on appelle le salon urbain, donc ça nous permet d'offrir thé, café. C'est la première rencontre avec les personnes. On discute de manière très libre, on se présente aussi. Ça, c'est vraiment un aspect très important du travail. On peut faire écouter ce qu'on a déjà fait. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que les personnes qu'on rencontre comprennent qui on est. Et donc, c'est dans ce salon, voilà, c'est le premier temps de conversation où on parle. Et quand les personnes ont envie de continuer avec nous, on leur propose d'enregistrer leur voix, d'enregistrer leur témoignage. Donc, c'est le deuxième moment. Là, donc, c'est une période post-confinement, premier confinement, je pense. Donc on est masqué, on est à l'extérieur, mais sinon c'est la caravane qui nous sert de lieu d'enregistrement, ce qui permet d'avoir un espace, un lieu où on peut s'asseoir, se poser de manière confortable, être à l'abri du regard des autres et laisser la parole faire son œuvre, discuter sur les sujets qui nous intéressent. Et à partir de ces enregistrements, on crée ce qu'on appelle des récits de vie, récits de ville. Ce sont des portraits audio d'une personne à chaque fois qui vont durer à peu près 5 minutes présentation de cette personne et de son rapport à la ville. Ensuite, on crée aussi ce qu'on appelle les polyphonies citadines, qui sont des œuvres sonores plus longues, qui croisent, qui mêlent plusieurs voix, mais qui ont un axe thématique spécifique. Et pour aussi... On va écouter, on ne voit pas les fresques. Après, donc on va écouter. Donc, vous voulez vous proposer d'écouter une polyphonie, c'est ça?
Non,
un récit, finalement. Ça a changé de temps. C'est éphémère. Par contre, je ne sais pas si le son au fond, c'est un peu plus fort. On me dirait si vous entendez pas assez parce que...
Je m'appelle Soumari Mohamed. Je suis né le 2 octobre 1989 à Conakry. J'ai grandi là-bas, j'ai fait tout mon cursus là-bas. Et après, j'ai pris mon vol pour l'Europe. Je suis passé d'abord par Bruxelles, où habitait ma sœur. Donc elle m'a hébergé quelques temps là-bas et j'ai décidé de venir en France après. Je suis venu en 2009, j'ai décidé d'aller à la fac à Grenoble, fac de sciences. J'étais au DLST à l'UGF. J'ai fait 4 ans à Grenoble. J'avais arrêté à un moment donné les études. J'ai fait quand même quelques missions. J'ai travaillé à Emmaüs Grenoble. Et après, j'ai arrêté vu que je voulais faire les études. J'avais besoin d'un peu d'argent pour bien sûr financer mes études. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à Marseille. J'ai été accepté à la faculté Saint-Charles. J'ai fait, disons, 3-4 ans à la fac là-bas, j'ai beaucoup bossé. Hein. Après, l'administration, ils ont dû bloquer mes notes, je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas finalisé comme je devais faire les choses. J'ai perdu mon logement, j'avais pas de travail. Bon, j'ai fait quelques mois de remplacement. J'ai travaillé un mois et demi au MUCEM. J'ai travaillé à Auchan-Saint-Loup. J'ai fait aussi de la préparation en commande, un peu. Donc je me démerdais tout le temps à trouver quelque chose, mais sans solution concrète. Parce qu'on ne peut pas travailler en dormant dehors. C'est quand même des faits qui doivent être relevés. Donc je suis resté là-bas à Marseille, rien ne bougeait. Ils ont commencé leur truc de Covid, confinement. À un moment, ils avaient tout fermé à Marseille, même les toilettes publiques. Vous imaginez, même pour se mettre à l'aise, c'était compliqué. Mais ici, je dors dans un petit endroit où j'ai trouvé, donc voilà. Le soir, je vais là-bas, je dors tranquillement et voilà. J'ai mon duvet, j'ai une petite couverture dedans parce que c'est pas un endroit non plus sécurisé. Au début, des fois, quand mon frère était là, j'allais prendre la douche. Je connaissais pas cet endroit, mais j'ai découvert. C'est quand même bien entretenu. Ils sont accueillants ici, donc ils désinfectent tout le temps, ce qui est important, parce que on n'est pas à l'abri, on ne connaît pas les gens. C'est un espace public, donc voilà. Moi, je prends maximum une dizaine de minutes. On n'a pas besoin non plus de prendre 20 minutes une douche. Donc voilà, tu rentres, tu fais l'essentiel qu'il y a. Après, si tu veux un peu te détendre, parce que tu es dans les conditions de dehors, la chaleur quand même, tu peux prendre un peu plus, mais pas une heure sous la douche. Il y a plein de monde quand même. À la maison, j'ai juste la serviette, les kits que j'ai là dans la salle de bain, bien sûr. Et le reste, c'est dans le placard. Ici, je suis obligé de faire entrer dedans parce que je peux avoir des affaires importantes dedans. J'ai tout ce qui est kit sanitaire dans mon sac. J'ai du parfum. J'ai 2-3 vêtements quand même que je réchange souvent. Moi, si certaines boutiques étaient ouvertes, la première des choses que je fais quand j'ai mon RSA, je change quand même de pantalon, je prends un t-shirt, même si je ne peux pas tout stocker là. Donc mon pantalon là, ça fait des mois que je l'ai. La veste là, je l'ai pris avant qu'il reconfine. Donc voilà, j'ai un autre t-shirt à l'intérieur, un autre pantalon. Voilà. Et après, je me change à l'intérieur tout en enlevant les chaussures à l'extérieur. Parce que quand on fait rentrer les chaussures quand à l'intérieur, ça fait une certaine forme de saleté quand même aussi. Quand je viens souvent, je rentre ici, j'aime bien la 10, la 11. À chaque fois que je viens là, ça se passe bien. Je prends ma douche, je pars tranquillement. Vous savez, l'hygiène et la propreté, on l'apprend quand on est enfant, on commence à t'apprendre certaines logiques et principes de la vie. Lave-toi les mains, brosse-toi les dents. Faut que ça soit propre. Donc même si tu es dans des conditions du dehors, tu te laves quand même souvent les mains. Des fois le week-end quand c'est fermé, ça m'arrive de faire un jour et demi sans prendre de douche. Mais je prends une bouteille d'eau, je vais dans un coin, je me brosse les dents, je lave mes mains. Donc voilà. Pour moi le plus important c'est désinfecter le corps. Le corps c'est comme, je dirais, c'est comme une machine. Une machine, tu es obligé de l'entretenir. Donc ça, c'est des trucs classiques, basiques, que ce soit moi, mon frère, mes soeurs, ça c'est naturel.
C'était moins vite.
Alors là, on a, voilà, c'est le récit qu'on a fait à partir de, du témoignage de Mohamed. Y a, les récits ils durent 5 minutes, volontairement plus ou moins 5 minutes. Alors c'est forcément, les entretiens, on les fait, ils durent parfois 2 heures, donc forcément on doit sélectionner. Mais on s'est parti sur ces 5 minutes parce que l'idée c'était aussi de diffuser ces récits dans l'espace public à l'aide de QR codes que les gens peuvent flasher. Et donc on parlait des fresques tout à l'heure, quand Julie disait qu'on s'installait quelque part, bah, on intègre des QR codes, ça permet aussi de nous présenter, de donner accès à ces témoignages. Donc on se rend compte que écouter 5 minutes debout dans la rue, c'est déjà suffisant en fait. Les gens ont du mal à tenir plus longtemps.
Petite peut-être parenthèse un peu archi entre guillemets, c'est-à-dire que comme l'idée c'était de tenter de dessiner la morphologie de cette habité précaire, on a essayé de faire des cartographies journalières, c'est-à-dire vraiment dessiner cette morphologie, et donc on a, avec plusieurs personnes qu'on avait rencontrées, on a fabriqué ces cartes aussi qui disent beaucoup plus du temps dont on a besoin pour rallier un équipement public intérieur, même s'ils ne le sont pas tous, mais en tout cas un lieu de bien commun à un autre que la question de la géographie. C'est petit à...
Oui, et l'échelle, c'est temporel, pardon. Je sais pas si...
Oui, vas-y. Non, non, en fait, effectivement, les cartes, elles sont conçues avec l'idée qu'un centimètre, c'est 5 minutes ou 10 minutes, je ne l'ai plus en tête. Et c'était vraiment pour essayer de comprendre combien de temps on met pour effectivement, quand on va de chez, quand on sort de l'endroit où on a dormi et combien de temps on met pour aller prendre sa douche, qu'est-ce que ça implique comme déplacement, etc. Et puis, ces éléments sonores qu'on compose et qu'on coécrit avec les personnes qu'on rencontre, l'idée, c'est de les diffuser un maximum. Donc, on essaye d'être présent dans tous les festivals, etc., qui nous permettent de diffuser. Donc, on est présent pour les Journées européennes du patrimoine, par exemple. Donc, ça nous permet de donner à entendre la réalité des bains douches. On est présent sur plein de les Journées mondiales de l'eau. On organise nous-mêmes des temps forts de diffusion. La caravane, qui est un lieu d'enregistrement, devient aussi un lieu de diffusion, parce qu'il y a des enceintes derrière. On a diffusé aussi aux archives municipales de Lyon. Et tout ça pour dire que, en fait, l'important, pourquoi on fait ça aussi, c'est que du coup, on a plutôt une formation d'architecte, pas tous, d'anthropologue, etc., mais avec l'idée qu'on peut modifier la ville dans laquelle on est. Et donc, on organise des journées d'études, on organise un certain nombre de choses. À chaque fois qu'on rencontre des élus, on diffuse ces sons-là. C'est-à-dire qu'on ne vient jamais, on ne se déplace jamais sans nos enregistrements, de manière à pouvoir faire entendre aussi ces réalités-là auprès de personnes qui considèrent que c'est une réalité qui n'existe pas, qui s'en éloigne le plus possible. Et
voilà, donc on diffuse aussi d'autres formats, comme dans des manifestations dites grand public. On organise parfois nous-mêmes des plateaux radio. Alors ici, c'était un plateau radio qu'on a organisé sur le seuil des bains-douches, où on a invité aussi bien des personnes usagères des bains-douches que les agents des bains-douches qui y travaillent, que des spécialistes scientifiques sur des questions de l'eau, de santé publique, à venir échanger sur le sujet. Et dans l'idée vraiment que justement toutes ces expertises se croisent et se complètent. On a pu aussi, lors d'un atelier, créer, donc ça c'était lors d'un atelier d'écoute partagée avec des élus, des techniciens, des artistes, on avait fait venir un panel de personnes. Et on a élaboré, alors là vous voyez absolument rien, mais c'est un début de cahier des charges en fait, de se dire que tous les éléments qu'on pouvait entendre à partir d'un récit ou de récits, de plusieurs récits, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire ressortir comme élément programmatique architectural.
Donc c'est le début du cahier des charges programmatique du bain-douche du 21e siècle. C'est-à-dire qu'en faisant 3 heures d'écoute collective dans un atelier avec des gens vraiment très divers, plutôt éloignés de la question sociale, on s'est rendu compte, chacun avec ses outils, hein, de dessin pour les architectes, mais de texte pour des artistes, de vidéos, etc. Chacun avec ses outils, en écoutant les enregistrements qu'on a fait au bain-douche, on a collectivement essayé de faire émerger un cahier des charges programmatique. Donc c'est un atelier de 3 heures. On se dit qu'en 3 heures, on arrive déjà hyper loin à affiner des choses, etc. Et qu'avec un peu de bonne volonté et un peu en faisant les choses de cette manière-là, on pourrait arriver à véritablement l'écriture d'un cahier des charges programmatiques du bain-douche du 21e siècle qui partirait véritablement des besoins ou des réalités. Pas des besoins, des réalités. Voilà. Et du coup, pourquoi aussi on avait proposé à Virginie d'être avec nous aujourd'hui sur la question justement du son et de l'archivage. Ah, de l'archivage, pardon, je crois, hyper bien. Il y a un des éléments qui était hyper important pour nous aussi, c'était qu'il y a une forme de cécité de la ville à voir sa réalité territoriale et sociale. Et on dit toujours oui, mais la ville, elle ne le fait pas exprès. Je dis ça un peu comme ça. Mais, et du coup, c'était hyper important pour nous de se dire, bah, puisque la ville ne sait pas, on va lui apporter l'information. Et donc, on va livrer l'ensemble de ces sons aux archives municipales de la ville de Lyon. Et donc, on a intégré, via Virginie, elle va nous raconter un peu plus, en fait, tout notre fond sonore est rentré aux archives municipales de la ville avec cette idée que, du coup, on ne pouvait plus ne plus savoir.
C'est ça. Ouais. Je peux parler sans micro, ça va, vous entendez bien? Donc, effectivement, Virginie Gentien, aux archives municipales, je m'occupe des archives privées et des archives figurées et aussi des archives hospitalières. Alors les archives pour vous c'est peut-être un milieu inconnu, un endroit où vous n'êtes jamais allé. En gros la mission d'un service d'archives c'est de collecter des archives qui sont produites par la collectivité. Dans le cadre des archives de la ville de Lyon, les archives créées par tous les agents de la ville de Lyon, 8000 personnes, voilà, une grosse activité. Et puis donc, ce sont des documents d'archives publiques et comme le dit Julie, effectivement, bah, on va avoir un biais tout de suite puisque c'est des documents qui procèdent de l'activité publique. Vous n'allez pas avoir la parole des gens qui sont éloignés des institutions dans ces archives ou alors par un biais, il y aura toujours un biais d'approche. Donc l'intérêt, l'objectif en fait, de beaucoup de services d'archives, quand ils en ont les moyens, c'est de compléter ces archives en collectant des documents privés. Donc des documents privés, ça peut être bah, vos archives personnelles, donc des archives de famille, des archives d'architectes. On a de nombreux fonds d'architectes aux archives municipales de Lyon, bah, justement pour nous aider à appréhender comment la ville est construite aussi. Et puis des archives d'entreprise, beaucoup d'archives d'associations. Et finalement, toujours un peu le même type de documents. Pas trop d'archives sonores, puisque... Bah, depuis déjà 40 ans, on considère que les archives sonores sont une source à part entière, une source historique à part entière. Mais malgré tout, ça reste quelque chose de très technique. Il y a un ouvrage qui est un peu notre bible sur cette question, c'est l'archiviste, le magnétophone. Je ne sais pas si vous me connaissez du coup, de Florence Descamps. Ça vous dit quelque chose? Ouais, forcément. Je vais retrouver le titre exact. L'historien, l'archiviste et le magnétophone. Voilà. Qui date de 2001. Et bon, même si on avait déjà les outils pour appréhender ce type de sources et les collecter, les conserver, en fait, dans les faits, on a commencé à avoir des archives sonores dans les années 2010 seulement, ce qui est très tardif. Et ces archives, en fait, elles étaient constituées lors d'élaboration d'expositions. Par exemple, on a une exposition qui s'appelait Lyon à l'italienne. Ben, on a collecté, enfin, une association a collecté des archives sonores dans ce cadre-là. Et c'était un projet intéressant, mais malgré tout, y avait des difficultés au niveau du cadrage, de recueillir la parole des personnes, la conserver, l'exploiter, la diffuser. Ben, tout ça, c'est un ensemble de droits, de choses à mettre en place, et ça n'avait pas été super bien cadré. Et ça a été encore le cas pour deux ou trois autres collectes. Mais malgré tout, c'est quand même une source qui nous intéresse, notamment... pour pouvoir documenter l'histoire, la façon dont vivent les Lyonnais, même de passage, dans la ville. Donc, quand la démarche qui est un peu particulière avec l'ALCA, c'est-à-dire que c'est eux qui sont venus vers nous, comme le dit Julie, il y a vraiment un engagement, c'est ça qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est que c'est des personnes engagées qui sont venues nous voir, enfin, qui m'ont contacté. Et on s'est rencontrés pour la première fois en 2020. Donc le projet a déjà 4 ans. Et donc en 2020, je fais leur rencontre dans leur local. Je découvre tout ce que vous avez découvert là. Donc enfin, peut-être que vous connaissiez déjà, mais voilà. C'est vrai que la première réaction que j'ai, même si je sais que le directeur des archives municipales et pas trop fan des archives sonores parce que voilà, problématique de conservation, tout ça, je me dis quand même, il y a de la matière super intéressante On va avoir des renseignements, des infos, des témoignages sur une thématique hyper, hyper contemporaine et effectivement une ambition d'éclairer les choix politiques, quelque chose de très engagé, très intéressant. Donc, je découvre ces archives, franchement bien organisées, bien classées. Donc, je ne sais pas si dès le départ, il y avait cette idée qu'il fallait conserver toute cette matière, si dès 2016, vous aviez eu cette idée-là, en fait, pour le projet. Mais comme on en a discuté ce matin, voilà, c'est aussi ce qui est intéressant dans vos futurs projets ou vos projets actuels. Qu'est-ce que je fais de ce matériau? Est-ce que vraiment... il n'y a pas quelque chose d'intéressant à conserver, à transmettre? Parce que bon, voilà, vous allez avoir un projet, vous allez travailler sur quelque chose de bien précis, mais ça peut dépasser aussi votre projet et intéresser un territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, avoir en tête quand vous allez faire vos travaux.
Je coupe juste sur le fait que les archives sonores de la ville de Lyon, jusqu'à ce qu'on leur remette nos dons, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais ces récits-là, la principale source sonore des archives sonores de Lyon, c'était les discours de Gérard Collomb. Je suis obligée de le sortir à chaque fois, mais donc du coup, ça permet de faire un peu contrepoids, pas beaucoup, mais un peu.
Pour la petite histoire de personnes qui ne sont pas lyonnaises, Gérard Collomb, c'est le maire de Lyon jusqu'à la dernière mandature, et c'est lui qui a fermé les bains douches.
Donc, il y en avait combien à un moment chez
Jusqu'en 2016, il y en avait deux, mais en 2000, il y en avait encore 8.
Donc je reviens. C'est vrai que c'est important d'avoir en tête que c'est des archives, finalement. Voilà. Vous créez des archives. À partir du moment où vous enregistrez, vous créez des archives. Et il faut se poser la question de leur conservation, et c'est là que faire appel à un archiviste, se rapprocher d'une structure, les archives départementales de l'Isère, c'est pas loin, je crois, par exemple, ça peut être intéressant pour conserver vos travaux. Donc nous, on a tout de suite, en plus on s'est super bien entendu tout de suite, ça compte aussi, je pense. Des fichiers super bien classés et un gros travail, puisque non seulement nous ont fourni les fichiers sonores, mais aussi la retranscription et puis les cartes, enfin, tout ce travail en fait autour des enregistrements. Et donc c'est des documents électroniques, alors voilà, les archives, c'est pas que du papier, c'est aussi de l'électronique, donc on travaille aussi là-dessus. Et justement, comme c'est des archives privées, en fait ça a été donné. Ça, vous verrez plus tard aussi la question des formalités juridiques du don, du DP, etc. Mais pour nous, le don, c'est très important parce que ça veut dire qu'en fait, ça devient, enfin, ces archives, en fait, deviennent des archives publiques. Elles sont entrées dans le patrimoine de la ville. Elles sont à tout le monde. Elles sont conservées. Elles sont alors accessibles, oui et non, puisque là, on est sur de la donnée personnelle, sensible. Donc il y a quand même une restriction. Pendant 50 ans, c'est le délai légal en fait. Pendant 50 ans, ces documents qui sont par ailleurs
en accès libre,
voilà. Nous, on les met pas en accès libre en fait. On les réserve aux chercheurs. Enfin voilà, pour avoir une recherche derrière. Donc c'est accessible, mais sur demande et après, à partir de 2070. 2070, tout sera librement diffusable. Mais bon, ça veut dire qu'en 2070, ces archives seront encore chez nous, aux archives municipales, dans un système dédié. Ça s'appelle un système d'archivage électronique. Et on n'est pas les premiers à le faire, mais quand même, des fois, ça fait du bien aussi de se dire qu'on avance sur certains dossiers. Donc les archives, les systèmes d'archives électroniques, normalement, sont réservés aux archives de la collectivité. Là, en fait, on a ouvert le système à des archives qui, à la base, sont des archives privées. Donc, c'est un peu la nouveauté. Et les archives sonores de l'ALCA sont les premières archives à entrer dans ce fameux système d'archivage électronique. Donc, je suis contente que ce soit vous. Voilà. Je ne sais pas ce qui vous intéresse aussi de voir ensemble, voilà, ce qui fait vraiment la particularité donc cette démarche-là, c'est le tout de suite d'avoir anticipé, je trouve, enfin c'est assez rare en fait d'avoir anticipé comme ça sur la conservation des données, c'est le point particulier. Et puis surtout, bah, la démarche que vous avez, qui est très particulière, de décloisonner, voilà, vous avez toutes des approches différentes et de vouloir faire ce... Bah, dialoguer ces différentes approches, créer un savoir super concret en fait, et dire aux décideurs, bah voilà, nous on a de la matière, on a des choses à apporter. Si plus tard il y a d'autres bains-douches qui émergent, bah, il faudra vraiment en prendre note.
En fait, le contexte, c'est que quand on commence le projet en 2018 aux bains-douches, les avant-derniers bains-douches de Lyon viennent de fermer dans une très très grosse mobilisation qui a duré une année, etc. Donc il n'y a plus qu'un seul bain-douche, celui d'Elessert, qui est celui-là, qui est aussi menacé de fermeture. Et donc, un des partis pris qu'on a, c'est de se dire comment on peut sauver... Alors le bâtiment, il n'est pas très beau, enfin, on ne laisse pas de sauver le bâtiment, c'est de sauver les usages. Et donc, une des premières réflexions qu'on a, c'est comment on peut inscrire au patrimoine culturel immatériel les usages des bains-douches, rendant la destruction du bâtiment, la destruction des usages impossible. Donc on n'avait pas pensé archivage au démarrage. Par contre, on savait que ces éléments-là pourraient nous aider à constituer un dossier PCI, donc le patrimoine culturel immatériel, pour inscrire les bains-douches dans la nécessité de la ville, en fait. Bon, du coup, il s'avère qu'on n'a pas fait, mais la municipalité a changé, mais à la limite, il faut qu'on continue, parce que on n'est pas avec la municipalité rechange, évidemment. Mais du coup, voilà. Donc en tout cas, ce qui avait conduit à l'idée quand même de conserver un maximum de choses, outre le travail de recherche, parce qu'en fait, on garde tout aussi pour avancer le travail de recherche, c'était aussi cette idée qu'on allait sauver. En tout cas, on allait tenter de participer à la non-destruction des derniers bains-douches. Voilà. Et du coup, ce don qu'on a fait aux archives, on a essayé de le faire en très grande pompe. Donc on a fait une installation aux archives municipales. On a conçu un dispositif-ci qui s'appelle la centrale des voix marginales, qui est ce dispositif-là qui est composé de 5 points phone qui permettent d'écouter les sons. Des dispositifs qui depuis se déplacent dans différents lieux, etc. Et du coup, pendant un mois ou deux, je ne sais plus, on l'a installé aux archives avec un dernier message, etc. Donc on a arrêté aussi de dire, en fait, venez aussi dans les archives, y trouver des... Il y a des éléments à prendre dans les archives. En fait.
Moi, je veux dire aussi le travail qu'on a fait, ce qui était intéressant pour moi de manière très naïve. Moi, les archives, c'était vraiment le passé. Et de travailler avec Virginie et l'institution des archives, c'était aussi de se dire, en fait, c'est le passé, mais c'est aussi ce que nous, on va laisser pour le futur. Et c'est intéressant de se placer comme ça. En fait, moi, ça a renversé quand même ce paradigme. De dire les archivistes font un travail de sélection et de, parce que c'est énorme tout ce que vous recevez quand même. Vous pourrez peut-être nous dire des quantités, mais voilà, il y a des fonds qu'il faut trier, qu'il faut choisir, il y a forcément des choix. Et en fait, c'est quelle est la trace qu'on laisse pour les générations futures de l'actualité du moment aussi. Donc c'est vrai que là, nous, on a ce travail de plusieurs années au bain-douche. Vous faites un petit travail d'une semaine, mais vous allez capter des ambiances. Donc en fait, c'est aussi de laisser ces ambiances qui sont là d'aujourd'hui. Parce que l'ambiance, on n'a peut-être pas parlé, je ne sais plus, mais une ambiance de 1920, une ambiance de 1950, une ambiance de 1970, 2000, 2020, etc. Ça évolue, il n'y a pas les mêmes sonorités, il n'y a pas les mêmes sons. Et donc peut-être que si vous vous dites, bah, tiens, le travail qu'on fait là, bah, ok, il a la valeur d'une semaine de travail, mais en tout cas, c'est un témoignage d'aujourd'hui et du moment, quoi. Donc ça peut être intéressant de se dire, ben... Bah, le campus, il avait cette ambiance-là en 2024, en janvier 2024.
Oui, je pense que vous devez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est plutôt notre directeur qui suit ce projet-là, le projet Saint-Essence, des chercheurs qui essayent de justement recréer l'ambiance sonore du XVIIIe siècle à partir d'archives. Donc là, c'est l'inverse, quoi. On recrée des archives sonores. Pour essayer d'avoir cette ambiance-là du XVIIIe siècle. C'est intéressant. Moi, je voulais juste ajouter aussi, parce que je n'ai peut-être pas assez dit, que l'objectif, c'était vraiment de compléter les collections, enfin les archives et les fonds publics. Parce que dans les bains-douches, c'est un établissement municipal. Donc, si vous voulez, on va avoir tout ce qui est architecture, ça, il n'y a pas de souci. On a les plans, on a les dossiers de fonctionnement. Mais en fait, l'usager, il est absent de ces archives. Et c'est grâce à ce type de collecte en fait, qu'on va vraiment avoir quelque chose de très complémentaire. Donc, comme nous-mêmes, voilà, aux archives privées, moi, je pilote un peu l'activité, mais on n'est pas nombreux. Et c'est vrai que j'aurais du mal à me lancer moi-même dans une collecte d'archives. Et pourtant, ça serait tellement, tellement pertinent. Je rencontre des tas de donateurs d'archives et en fait, je prends des notes, mais je les enregistre jamais. Et c'est vrai que c'est dommage de perdre ça. On a eu ces démarches-là sur, pour certains architectes. On a interviewé Charles Delfante quand on a fait des expositions justement sur les donateurs, une exposition sur, en hommage aux donateurs des archives en 2010. On a interviewé quelques personnes et en fait, ça s'est arrêté là. On n'a pas généralisé. On n'a pas, ouais, on se sentait pas de continuer, on n'a pas les compétences finalement. Il faudrait avoir quelqu'un qui est spécialisé dans chaque service. Mais bon, vous connaissez l'état des finances publiques.
Voilà. Quand vous parliez du coup de justement utiliser ces archives sonores comme manière de montrer, de faire en sorte que la ville ne puisse pas dire qu'elle n'est pas au courant, et de faire rentrer dans les archives. Pour que ça fasse partie des informations sur la documentation, etc. Mais tout à l'heure, sur le document de don, l'article 2, il y a marqué que il y a sous réserve de supprimer si besoin, etc. Mais
les archives municipales de Lyon sont autorisées à effectuer des tri et des éliminations. Bon, les élus, concrètement, ils vont jamais aller fouiller dans les archives pour les détruire. Mais effectivement, en fait, c'est une convention classique. C'est-à-dire que là, on a des archives sonores. En fait, on n'élimine rien. Mais quand on a des archives papier, et, je sais pas, 100 mètres linéaires d'archives d'architectes, en fait, on garde pas tout maintenant. On élimine quand même beaucoup et on garde que quelques projets. Désolée. Mais... Donc voilà, là c'est vrai que cette clause-là n'est pas forcément adaptée.
Disons que dans le cadre de cette archive-là, ou du coup c'est une archive sonore qui a un lien avec la politique de la ville, etc. Du coup, le fait de le supprimer, je sais pas s'il y a des archives de ce qui est supprimé ou si c'est...
En fait, là maintenant c'est un délit si on les supprime. Parce qu'à partir du moment où des archives privées sont données, elles deviennent trésors. En fait, ça devient un trésor public. Voilà. Donc, si on les supprime, c'est un délit. Voilà. Comme ça, on ne pourra pas. Enfin, on pourra pas. Si, ça n'empêche pas de le faire, mais c'est un délit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
C'est juste parce que du coup, ça pose. Non, mais c'est ça remet en cause tout ce qui est dit sur.
Ils n'ont pas lu, en fait, les documents, ils ont signé comme ça. Ils m'ont fait confiance depuis le début.
Du coup, c'est facile à enlever.
Mais oui. Il faudra peut-être faire la présentation pour la prochaine fois. Ça sera enlevé, celle-là.
C'est très pertinent.
Justement, il n'y a pas la clause comme quoi c'est trésor et que du coup ça ne peut pas être supprimé.
Oui, oui. Après, c'est ça quand je dis ça rentre dans le patrimoine de la ville. En fait, c'est ça, les archives privées qui sont données à une collectivité publique, en fait, elles deviennent trésor national. On ne peut pas les supprimer, pas les éliminer comme ça.
Et après, il y a ça m'évoque autre chose, c'est qu'on se rend compte aussi que la patrimonialisation, c'était l'idée d'inscrire les bains douches en tant que patrimoine culturel et matériel, on sait qu'il y a une forme d'objectivation autour de cette question-là qui fait que les élus ne se positionnent jamais contre, alors que sur la culture, sur l'éducation nationale, sur la jeunesse, enfin tous ces éléments, enfin tous ces énormes sujets, donc les bains-douches, l'existence des bains-douches, à partir du moment où on allait le faire rentrer sur la question du patrimoine, on sait que ça allait passer dessous, comme un espèce de truc où finalement c'est pas visible et du coup personne se positionne. Du coup c'est aussi... En fait, les élus, ils le savent parce qu'on les a informés de ce don, évidemment, mais il y a un espèce de truc où c'est donné aux archives, donc ça sort de leur ressort. Mais c'est,
oui, il y a une partie de invisible dans les archives où ça va s'enterrer dans la poussière, etc. Et sauf qu'il faut toujours le ressortir.
Exactement.
Oui, on est victime de. Pas à chaque tout le monde de ça, mais effectivement, là, on a cette image-là, mais pas du tout. Regardez cette magnifique installation dans la salle de lecture. Leur idée de départ, c'était de mettre une douche quand même dans la salle de lecture. Je ne sais pas si vous imaginez.
Douche sonore.
Ouais, c'était la douche sonore. Ouais. Ça nous avait fait bien, bien rire parce que les archives craignent beaucoup l'eau. Hein, voilà, vous imaginez bien. Et puis du coup, c'était assez drôle, mais il était très bien ce dispositif. En tout cas, on n'a pas si souvent que ça l'élu à la culture qui vient lorsqu'on organise des événements. Et là, elle était venue sans doute parce qu'elle avait l'air d'être aussi très sensible à la question des bains-douches. Mais c'était plutôt réussi. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
Il y avait deux questions.
Moi, je me demandais comment vous aviez restitué en fait ce processus d'archivage aux usagers et si vous aviez déjà des effets de ce statut de patrimoine municipal, voire de trésor public qui est évidemment des effets directs sur les 10 usagers.
Pas directement à dire, c'est juste qu'en revanche, les GSI, les personnes, quand on les enregistre, elles sont au courant de ce qu'on va faire derrière. De manière très fréquente, on nous réalise, c'est-à-dire qu'on fait réécouter, fait des allers-retours, etc. Donc, même si le montage, c'est nous, il y a une conversation autour de ça. Et puis, on disait dans les salons urbains, quand on s'installe quelque part, on essaye d'être le plus clair possible sur nos intentions et sur le fait que les personnes qu'on rencontre ont une expérience urbaine. Donc, en fait, la valorisation, elle passe pas tant par le fait qu'on les a archivées que par le discours qu'on tient à nous en disant, on est architecte de formation et on ne sait pas faire la ville. Donc, si vous ne nous donnez pas des informations, on n'arrivera pas. Donc, c'est un raccourci, mais et du coup, c'est plutôt par ce biais-là qu'on arrive à faire entendre que les expériences urbaines sont hyper importantes pour faire la ville.
Et est-ce que ça aussi à l'écoute, alors là on a entendu un récit, mais quand on en écoute, je ne sais plus combien on en a déposé,
32,
voilà, mais c'est aussi de montrer la diversité des usagers. Parce que souvent, et même les politiques, c'est-à-dire, et même nous, quand on est arrivé au bain-douche en 2018, on pensait qu'il y avait une espèce de type d'usager, un peu, voilà. Et en fait, une des premières choses qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, non, il n'y a pas du tout, il y a autant de cas que de personnes qui viennent, enfin, de différences, de manières d'habiter différentes, de gens qui viennent là qu'une fois et qui ne reviendront plus jamais, des habitués qui sont là depuis 20 ans, des gens qui viennent tous les jours, des gens qui viennent qu'une fois par semaine, des hommes, des femmes, des noms qui ne se définissent pas. Enfin, c'était ça aussi, et tous ces récits permettent ça. Et nous donnent après, quand on est en discussion avec les élus notamment, aussi tous les arguments quand ils nous disent « Ah bah oui, mais c'est pas possible parce que » ou « Bah oui, mais non », on a toujours plein d'arguments à leur dire et qui ne sont pas contradictoires parce que c'est des vraies situations. Et d'entendre le grain des voix aussi, les gens sont tout de suite plus sensibles. Que si c'est, on pourrait redire les mêmes mots, les mêmes phrases, mais c'est vrai qu'on a... Mais d'avoir cette texture de voix, d'un coup ça incarne, et de volontairement travailler qu'avec le son et pas avec l'image des gens. On prend très peu de photos, à part comme ça, pour documenter, mais on ne fait pas forcément des photos des gens qu'on enregistre. Ça permet aussi de se décaler malgré tout de la situation, et on est moins dans un stéréotype. Et ça, c'était très intéressant aussi, de se dire qu'on en a discuté longtemps aussi à l'intérieur, de se dire est-ce qu'on fait de la vidéo à un moment, est-ce que pas. Et pour l'instant, c'est vraiment décidé de rester sur l'audio, pour avoir ce rapport-là, c'est-à-dire de quelque chose de très incarné et en même temps très détaché. On a même des fois des gens qui écoutent et disent « Est-ce que si c'est un blanc français ?» En fait, non, la voix, c'était pas du tout ça, mais c'est intéressant de ne pas être tombé dans l'image, quoi, de rester dans le discours. Et... Je ne sais pas comment on fait en fait, on n'a pas trop qui veut parler, j'ai envie de dire.
C'était comment la démarche a été accueillie par les usagers des bains-douches, justement. Est-ce qu'ils étaient ouverts ou
En fait, le fait d'avoir un campement sonore, c'est d'arriver avec un énorme matos et d'offrir du café, en fait, déjà. La question, elle est déjà de se dire bonjour, de se présenter, etc. Les gens qui n'ont pas envie, ils s'en vont. Donc en fait, on ne sait pas trop ce que pensent ces gens qui ne veulent pas nous parler. On a le retour que des gens qui ont envie de nous parler et du coup qui disent moi j'ai envie de te parler. Donc du coup, je suis OK. Et donc, on va dans la caravane. Et donc, le protocole, entre guillemets, fait qu'il y a une implication immédiate ou pas de la personne. Mais ça peut rester sur on discute 3 heures à boire un café et il n'y aura jamais aucun enregistrement.
Donc voilà, on a eu très peu de retours. Après, on est sur le seuil des bains-douches, là on est en train d'entamer un autre projet qui est la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, autre espace public intérieur, qui est très différent. Parce que les bains-douches, c'est vraiment un endroit où les gens viennent prendre soin d'eux. Ils viennent, c'est un temps de pause, donc nous on est là avec du café. En fait, c'est trop, enfin c'est pas que c'est trop cool, mais du coup, ça n'engage à rien. Et c'est une fois qu'on a passé du temps, souvent les gens nous ont déjà vu 2-3 fois, c'est 2-3 jours qu'ils nous voient, donc tout d'un coup les choses se... la parole se libère, mais de manière assez simple et sans...
Le dispositif aussi, c'est-à-dire que l'espace physique des bains-douches a permis ça, c'est dans une impasse, avec un jardin en face, donc c'est très ouvert, en plus orienté façade sud, donc dès qu'il fait un peu beau, on a le soleil, il y a des murets, les gens restent, mais on a volontairement aussi, on s'est installé sur le seuil, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans les bains-douches. Et ça, c'est pour ça qu'on a mis aussi du temps, même avec les gens qui y travaillent, il y a vraiment ce... Moi je prends toujours l'image du renard et de la rose, du petit prince, là, de comment on s'acculture, comment on prend le temps de s'apprivoiser l'un et l'autre. Et donc effectivement, il y a des gens qu'on voit qu'une fois, qui ne reviennent pas, donc voilà, mais sinon, bon, à force d'y aller régulièrement, d'être à l'extérieur, on n'est pas dans les bains-douches, on est sur le seuil des bains-douches. Et ça, ça a été très important parce qu'il y a eu des chercheurs avec qui on a travaillé, qu'on crée une recherche, une étude un peu plus à l'échelle régionale avec les bains-douches de Grenoble, Saint-Étienne, et ils nous ont dit, en fait, on a voulu aller trop vite direct à l'intérieur, et ça s'est moins bien passé. Parce qu'il y avait cette chose de, ben, on rentre dans la salle de bain des gens quand même. Donc nous on est à l'extérieur et on les invite à venir chez nous. Ouais, c'est peut-être que chez nous, il n'y a pas vraiment un mur, mais c'est viens t'asseoir chez moi, je t'offre un café. Et donc il y a cette chose de rencontre qui est importante et de construction dans le temps et dans l'espace en fait. Ça c'était vraiment un truc qu'on a fait et là ce que disait Julie, c'est vrai, c'est-à-dire que là on va à la bibliothèque, on est tout de suite à l'intérieur. En même temps, c'est un lieu de circulation, donc on est un peu en train de dire comment on peut faire.
Le dispositif ne marche plus, il faut qu'on en invente un autre.
Okay. Vous l'avez très bien travaillé, cette notion d'intérieur public, parce que vous avez reconstitué un intérieur à l'extérieur.
Oui, c'est ça.
Le tapis, l'ambiance salon.
Parce qu'on s'est dit aussi, on a des fois essayé de l'écrire, mais je crois qu'on ne l'a jamais vraiment bien écrit. De se dire, en fait, on travaille avec des gens dont l'espace public est leur habité, là où ils habitent. Donc, en fait, on est déjà un peu chez eux. Donc, comment on fait, justement, à quel moment on sonne à la porte, en fait, à quel moment on frappe, à quel moment on dit, est-ce que je peux rentrer, ou à quel moment on dit, venez chez nous. Et c'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire comment on recrée une intimité dans le public de la rue.
Moi, j'aurais voulu savoir comment vous faites le lien. En fait, vous avez parlé un peu de ce travail des bains-douches avec justement les récifs, et vous avez parlé aussi de ces cartographies temporelles. Comment vous faites le lien entre cette expérience en fait, spatio-temporelle des bains-douches et le reste des activités des personnes? Et donc, cette constellation de pratiques.
Effectivement, on allait un peu vite, mais c'est vrai qu'il était... Parce que du coup, on a, à chaque fois qu'on avance et qu'on enregistre des gens, on émet des hypothèses. Alors du coup, on en a parlé ce matin avec Paul, mais une des hypothèses, c'est que l'hospitalité, c'est la possibilité d'offrir des habitudes. Et ça, c'est une hypothèse qui est née au bain-douche, puisque les gens qui viennent... Ça, je fais que des raccourcis, mais c'est vrai. Les gens qui viennent au bain-douche, ils ont des habitudes dans ce lieu-là, en fait. Et donc voilà. Et on se rend compte qu'ils viennent au bain-douche, on s'est rendu compte qu'ils venaient avant un rendez-vous ou après un rendez-vous. Ou avant une situation ou après une situation. Et quand on s'est dit, en fait, il faut qu'on s'intéresse à ce qu'il y a avant et après les bains-douches, on s'est rendu compte que le avant-après, il est, évidemment, c'est l'échelle de la journée. Et parfois, on met 3 heures pour venir aux bains-douches. Quand on est dans un squat à l'autre bout de la ville, qu'on n'a pas de papier, donc on n'a pas envie de prendre les transports, etc. Du coup, ça devient une épopée d'aller seul. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'on a établi une liste, mais qui est une liste non exhaustive et évidemment très propre à chacun, de besoin de l'habiter qui s'étale comme ça sur le territoire dans différents lieux. Je suis pas du tout sûre de répondre à la question, mais
Okay.
Mais voilà, en tout cas c'est comme ça que cette cartographie elle est née, en se disant et puis c'est surtout elle est née avec l'idée que l'habiter à l'école, en école d'architecture, parce que du coup il y en a quelques-uns, je pense, on apprend à dessiner la morphologie de l'habiter comme s'il y avait une sorte de les couples avec enfants veulent une cuisine fermée, je catégorise. Et en fait, là, l'idée, c'était de dire que en fait, l'habité, elle est propre à chacun, chaque jour. Donc, du coup, quand on sait ça, comment on fait de la ville, comment on amène les pouvoirs publics et les faiseurs de ville, les architectes, les urbanistes, à penser un peu le déplacement, la nécessité d'aller rejoindre les espaces publics intérieurs, fait reprendre Céline, mais parce que la République, elle se passe avec ces espaces qui sont mis en commun. Donc c'est comme ça que c'est né, c'est cartographie.
On peut faire un peu travailler aussi sur les conditions de déplacement des personnes, les conditions de cette... En fait, un peu l'hospitalité aussi de la ville en termes de...
Là, un peu, mais moins, parce qu'en fait, finalement, on a assez vite résumé les déplacements entre la voiture, le déplacement personnel véhiculé, le déplacement public et le déplacement à pied. Et en fait, on n'est pas allé creuser, on a fait quelques expériences, mais notamment avec Marc-Antoine, de marcher avec des gens d'un point A à un point B pour voir quelle est l'étendue de la ville et comment se passe ce déplacement-là, mais on n'est pas rentré complètement. Il faudrait qu'on fasse ça.
Ouais, c'était pas un prisme qu'on a pris, mais c'est vrai qu'au départ, le projet, il est venu vraiment... cette question d'hospitalité et d'habiter au sens large. Et après, on a isolé, entre guillemets, un des besoins qui était celui de se laver. Mais au départ, quand on a commencé, on était sur habiter la ville, qu'est-ce qui permet d'habiter. On s'est rendu compte que la question de l'eau était très présente, et des toilettes, et de pouvoir se laver. C'est comme ça qu'on est arrivé à faire ça. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était la question de l'habiter quand on est en situation de précarité, donc logement non conventionnel. Ça peut être surpopulation, squat, logement défaillant, enfin, ça correspond à plein de choses dans sa globalité. Et ensuite, on a pris un des besoins. Là, on essaye justement la bibliothèque, c'est la question de pouvoir rêver dans l'habiter, où on doit pouvoir avoir un moment pour rêver, un temps, un espace pour pouvoir rêver. Et donc, c'est comme ça, l'idée, c'est que ça dure 300 ans et qu'on fasse tous les besoins de l'habiter.
Qui chaque jour, parce qu'on est immortel.
Pardon, je suis nul. Je ne sais pas qui a levé la main en premier. Pardon.
Moi, j'ai une question parce que vous avez tous les deux dit que vous avez mis les facilités, les tout ça. Est-ce que vous avez eu retour de gens, j'ai envie de dire, lambda entre guillemets, qui ont été touchés ou qui ont eu des réactions en écoutant justement ces tranches de vie de personnes qui sont marginalisées et qu'on met un peu de côté parce qu'ils ne vont pas dans le nord?
Bah déjà, le fait de participer aux journées européennes du patrimoine, alors ça peut paraître comme ça assez... déjà, dans le quartier, les gens se rendent compte que les bains-douches étaient ouverts. C'était pas un bâtiment fermé il y a 50 ans, quoi. Donc déjà, ça a permis de reconnecter le lieu avec son environnement très proche, qui sont les habitants du quartier. Donc, rien que ça, c'était intéressant de voir les habitants prendre conscience qu'ils ont un super lieu commun dans leur quartier.
On est aussi... une personne alors, qui travaillait dans une association de distribution de repas, peut-être, je ne sais plus, ou pour quelle association caritative, qui un jour, on s'est croisés dans lors d'événements, qui nous dit « Ah, mais c'était vous le QR code qu'on a pu flasher, est-ce que la fresque va rester même longtemps après notre départ ?» Donc, en fait, on ne maîtrise pas du tout ces choses-là, en fait, quelque part. Mais de temps en temps, voilà, c'est des croisements qui font que, bah, soit on croise des gens qui ont un peu des intérêts communs, c'est plus compliqué de rencontrer des gens, voilà, mais chaque fois qu'on le fait écouter, les gens sont sensibles. Enfin, c'est rare qu'on nous dise que c'est mieux. Enfin, pas dans le sens de la création, mais de la vie, quoi. Enfin, c'est la vie des gens, donc elle est belle, quoi.
Moi, je me demandais juste pour quelle raison Gérard Collomb il a fait fermer les bains de douche.
Bonne question, on va rentrer dans un grand débat. Il y a des histoires de territorialité, il y a des histoires d'élections. Les anciens bains de douche, enfin, les avant-derniers, se trouvaient dans les Panthéon-House, qui est historiquement un quartier de la ville qui va très à gauche. Et donc,
vous avez dit quel quartier?
Les Panthéon-House.
Les Panthéon-House. En pleine gentrification.
Et donc c'est un moment donné où il y a une partie de son hyper... Enfin, ces gens-là ne votent pas pour lui, et donc il se dit qu'en changeant... Je fais un raccourci hyper... c'est que mon avis, bon, je vais le préciser, mais du coup, il fait une sorte de... l'idée, c'est de modifier la population des Panthéon de la Croix-Rousse. Donc, à partir du moment où les loyers commencent à être très chers, à partir du moment où il y a des investisseurs qui viennent mettre des loyers à la vente très excessifs aussi, du coup, les bains-douches, ils font tâche au milieu, et donc l'argument qui est quand même sorti, c'est le fait que les bains-douches étaient très délabrés, ce qui n'est pas faux, hein. Et après, l'argument politique, c'est qu'en fait, une fois qu'on enlève les bains de douche, on supprime une partie d'un problème qu'on n'a pas envie de voir, quoi.
D'accord, merci.
Ça n'est que mon avis.
Ouais, on n'a jamais creusé l'explication exacte, mais tout participe de ça. Une volonté d'une ville gentrifiée, et donc ce service n'a plus besoin.
Mais c'est pour ça que ce que disait Céline hier, c'est vraiment, je pense, hyper important de l'avoir en tête. En fait, il n'y a pas de République sans espace commun, en fait, et sans espace à partager. Et donc, nous, on voit vraiment le fait qu'on voudrait considérer que les bains-douches, on est sympa quand on les laisse et on n'est pas sympa quand on les enlève. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas d'être sympa ou pas sympa, il s'agit de dire que c'est la ville et que la ville, elle se fabrique autour d'espaces communs. En fait. Et je trouvais que l'intervention de Céline hier était hyper intéressante là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ville sans organisation de la cité autour de ces lieux communs.
Et si on reprend un peu l'histoire, vraiment, avec on pourrait partir des termes romains, etc., mais... si on part dans l'histoire plus récente avec les HBL, habitation bon marché, où il n'y a pas de salle de bain dans le logement, on a un programme de bain-douche souvent axé avec un gymnase, une laverie, enfin un lavoir pour laver ses vêtements, qui est couplé à ce complexe de logement. Et puis après, il y a la loi HLM qui arrive et qui impose une salle de bain dans les logements. Et donc à ce moment-là, les bains-douches ont de moins en moins de fréquentation puisque les gens ont de plus en plus de logements, de salles de bain dans leur logement. À savoir que dans la cité jardin à côté de ce bain-douche, le bain-douche a été créé en 67, mais la première douche dans un logement, elle est dans les années 80 et 90. Donc en fait, on voit la relation entre comment l'évolution du logement se fait et comment ce dispositif, on en a besoin ou pas. Et du fait qu'il y avait la loi qui impose une salle de bain dans le logement, les pouvoirs publics se disent en fait, il n'y a plus besoin de bain-douche publique puisque tout le monde a cet équipement chez lui. Et c'est pour ça qu'après, on parle, nous, de logement non conventionnel, parce que d'un coup, on peut avoir la salle de bain chez soi, mais on peut ne pas avoir les moyens de payer l'eau chaude.
Ou
qu'elle ne soit pas adaptée à des besoins, parce que dans les transformations, il fallait enjamber le toilette pour aller dans la douche. Donc, à partir d'un certain âge ou d'une certaine capacité physique, on ne peut plus. Mais c'est de se dire, en fait, c'est que ça revient à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question du domaine privé, la salle de bain. Ça reste une question de public, en fait, de se dire, c'est pas parce que le logement est équipé que on peut. Ça, c'est très clair.
Peut-être on va...
J'avais juste deux, trois petites choses. Là. Juste pour rebondir là, au Japon, c'est plutôt commun d'ailleurs, le bain-douche, ça participe de la vie. Du coup, ça permet de prolonger l'usage commun, le bien commun, c'est ce qui permet d'aller vers le commun. Le commun, c'est ce qui institue les communautés et donc des réflexions comme le communalisme, etc. Donc, il y a la revue de Marx dernièrement qui est très bien faite, qui reprend, qui synthétise un peu toutes ces histoires-là, que vous engagez à aller vers ça. J'avais aussi envie de... Parce que dans l'éducation populaire, on a les dispositifs de porteurs de parole qui sont extrêmement bien documentés. Donc je voulais savoir si aussi là, vous étiez allé chercher de ce côté-là. Voilà. J'avais une autre question, je synthétise tout. Parce que dès le départ, vous parlez des besoins, mais qui a précisé ces besoins de l'habité ? Voilà. Parce que si on se place du point de vue de Maslow, par exemple, on voit bien que sa pyramide est contestée, contestable, etc. Donc c'était savoir quels étaient finalement les piliers sur lesquels vous étiez. Et deux dernières choses, c'est on parle souvent plutôt de cohabiter que d'habiter. Donc je voulais savoir si vous étiez traversé aussi par ces notions-là, de cohabiter plutôt que d'habiter. Et puis la question du rouge, pourquoi ?
C'est une autre question. En fait, la question des besoins, on n'a pas fait de pyramide, ni même, on a juste de manière extrêmement empirique parlé avec les gens qu'on rencontre. Et effectivement, le besoin de se laver, il apparaît de manière assez forte. Le besoin de dormir,
de se reposer.
Il y a des besoins, le besoin de rêver, il apparaît de manière moins forte, mais en fait, il apparaît moins forte parce que les gens qu'on rencontre sont toujours contraints dans un emploi du temps à aller voir une assistante sociale. Donc en fait, il y a un espèce de truc qui fait que même s'autoriser de rêver, il n'y a pas de pire. Enfin,
non, mais...
voilà. Non, mais oui, mais c'est vrai, je sais complètement.
Si c'est plutôt top-down, c'est tout. Est-ce que c'était plutôt ascendant ?
Oui, c'est plutôt très en fait. Non, puis il y a des besoins auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont. c'est propre à chacun, en fait. Le besoin d'opéra, par exemple, Ericsson, qui est quelqu'un qu'on a rencontré, qui vient d'Albanie, et dans son sac, il a aussi 5 livres de Freud et pas d'habits. Enfin, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas du tout. Donc, en fait,
c'est une question qu'on se pose. De toute façon, oui. À chaque fois, on essaie de faire la liste, puis on n'y arrive jamais. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que, d'un coup, on va rencontrer quelqu'un, ça me dit, ah ben oui, tiens, et ce besoin-là. Après, c'est vrai que même si on est immortel, on n'a pas un temps infini. Et on a du mal à. Enfin, voilà, on s'est concentré sur ça pour l'instant, en essayant justement d'évoluer. Et même si, non, j'ai bien compris, mais c'est pour aller dans ce sens-là, en fait. C'est de se dire qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est ça qui est beau, quelque part, de se dire qu'on a l'impression d'avoir fini, et puis, non, en fait, ça rebondit et ça va plus loin, quoi.
Après, sur la question de l'éducation populaire, nous, on est aussi, c'est pour ça qu'on utilise le son, c'est-à-dire rendre nommable ce qu'on voudrait plus nommer. Je pense que c'est sur cette partie-là qu'on est quand même, on essaie de se rapprocher de cette. Voilà, rendre. Renommer en fait. On passe notre temps à ne plus nommer les choses parce que je sais pas, parce que les réalités territoriales qui sont. Donc je pense qu'on s'inscrit un peu là-dedans par ce biais de nommer les choses en tout cas.
Et habiter, pardon.
Ouais, vas-y.
Non, habiter, cohabiter, nous on a beaucoup, on s'appuie beaucoup aussi sur Thierry Pacaud. Sur la question d'habiter et qui revient sur la question des habitudes en fait et de sortir du cadre du logement et on essaie de reparler même dans notre discours auprès de tout le monde d'habiteurs et non plus d'habitants qui est un terme qui existait donc on a repris complètement Thierry Pacaud mais de dire qu'habiteur était l'ancien mot qui voulait dire avoir des habitudes quelque part et nous dans notre discours on essaye alors souvent après on met des astérix les gens pensent qu'on fait des fautes mais même à l'oral mais on le reprécise et ça par exemple on a enfin, moi je suis assez fier de nous la ville de Villeurbanne avec qui on discute souvent utilise le terme habiteur maintenant. Et même quand ils créent des dispositifs, comme le dispositif budget participatif, c'est ouvert à tous les habiteurs, donc toutes les personnes qui ont une habitude à Villeurbanne, pas forcément qui sont résidentes avec une adresse administrative fiscale sur Villeurbanne. Donc c'est là où on se dit, en fait, à force d'être là, à force d'en parler de manière argumentée, etc., les gens l'écoutent et s'en servent. Quoi. Et c'est vrai que. Le travail qui est mené à Villeurbanne et que nous, on accompagne de très loin, en fait, mais on voit qu'ils réfléchissent sur cette question d'accueil et d'hospitalité et qu'en fait, quand on leur donne des arguments, ils arrivent à s'en saisir. Voilà. Et là, le rouge, parce que...
La colère.
La sérénité, le sang...
Ça se voit.
Et si peut-être pour aller un peu plus loin, puisque du coup, les archives, parce que souvent, quand on veut garder quelque chose en mouvement, plutôt, on a plutôt tendance à créer des observatoires, ce genre de choses-là. Et du coup, là, un choix, un parti pris fort sur les archives. Mais savoir si là aussi, parce que quand je dis que c'est mettre en mouvement un observatoire, souvent, ça permet d'avoir des financements. Et c'est dans ce sens-là que ça permet de garder du mouvement et de pouvoir... finalement poursuivre un travail. Donc, est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel vous aviez...
Non, mais pas. En fait, depuis peu, on se dit qu'on est lobbyiste. Parce qu'en fait, ça fait donc 5 ans qu'on mène un travail sur les bains-douches. Donc maintenant, on devient un peu des spécialistes des bains-douches. Donc c'est un peu ridicule dit comme ça, mais ça permet un truc. C'est que du coup, la ville de Lyon a l'intention de fabriquer un autre bain-douche. La métropole de Villeurbanne, la métropole de Lyon veut fabriquer des bains-douches dans toute la métropole et Villeurbanne s'est engagée à construire 2 douches dans des institutions publiques. Donc on devient un peu malgré nous, puisque en plus on n'a vraiment pas notre casquette archi à cet endroit-là. Enfin, l'idée c'est qu'il y a des architectes qui travaillent dessus. Mais du coup on déplace, donc en fait on arrive quand même un peu à déplacer, alors combien de temps, tout ça, et puis je sais pas, mais en tout cas on arrive un peu à déplacer les politiques publiques, donc finalement on arrive un peu à être tout le temps dans le mouvement par ce biais-là. Et après sinon on a des financements de recherche et de création et d'actions culturelles et de financement d'assaut.
Je pense qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de l'observatoire, mais en même temps, c'était de le transmettre aux archives, c'était aussi de que ça nous dépasse nous-mêmes quelque part. Que l'observatoire, ça veut dire qui va le gérer, qui le fait vivre, etc. Alors que là, il y a une structure qui existe déjà, une institution publique en plus, donc c'est chouette que ce soit public et de dire, maintenant, ça ne nous appartient même pas, en fait, cette matière. Ce n'est pas nous, c'est les gens, c'est... Et donc de le donner directement, en fait, de confier à d'autres personnes, ça nous... Enfin, il y a quelque chose de la pérennité aussi, qu'on se posait la question, parce qu'effectivement, c'est accessible sur notre site internet. On se dit, bah, une fois qu'on a mis la clé sous la porte dans 300 ans, qu'est-ce qui se passe? Là, on sait qu'à partir de...
Ah, mais là, il y a de la compétition, là, hein, 300 ans non, mais oui, effectivement, moi, je trouve que c'est l'aspect de la pérennité qui est important, parce que on en parlait ce midi, des mouvements qui sont nés dans les années 70, par exemple, moi, je travaille sur un fonds d'archives, du mouvement pour une alternative non violente, donc une association qui est née en 74. Bah, voilà, il y a toujours des membres, mais il y a beaucoup moins d'actions, il y a moins de permanents, il y a moins d'activités, ça s'essouffle, et bah, qu'est-ce qu'on fait des archives? En fait, à un moment donné, il faut les transmettre, et c'est vrai que c'est d'autant plus facile de le faire quand la structure est vivante, et les archives, c'est pas forcément poussiéreux.
Non, mais c'est pour ça que
on a un service public et on est gratuit en fait. Il y a cette idée-là. Je veux dire, quand on va collecter des archives, c'est pas payant. L'ALCA ne donne pas, je sais pas, ne paye pas le Tera. Je sais pas comment. Il y a pas un Tera de données encore. Mais voilà, c'est un service public et je pense que c'est pour ça qu'il y a un esprit commun. Des facilités de faire ce type de don.
Et c'est pour ça que le travail que vous allez faire pendant les deux prochains jours, c'est intéressant, alors sans dire qu'ils seront aux archives, hein, évidemment, mais je trouve que c'est intéressant que vous me disiez que c'est quand même la trace de quelque chose et que ça a de la valeur avant même que vous ayez commencé. En fait, c'est en train d'avoir déjà de prendre de la valeur puisque vous êtes en train de le faire. Et
c'est déjà un trésor.
C'est déjà un trésor.
Un jour, peut-être un trésor national.
Et voilà.
Une autre question, et en fait j'y pensais dans la vidéo, dans l'audio, pardon, la personne disait que pendant le confinement ils avaient même fermé les toilettes, et en fait est-ce que vous avez pensé que vous avez passé plutôt à cette constellation d'habiter, à aussi intégrer les toilettes publiques comme autre point d'hygiène?
Oui, bien sûr. Non mais les toilettes, et puis en plus c'est une aberration les toilettes, parce que tout le monde dit qu'il y a des toilettes dans la ville, mais Lyon par exemple elle ferme la nuit, donc en fait... C'est tout à fait juste, mais en fait, la question du point de santé ou du lieu pour prendre soin de soi, on essaye d'enlever le mot hygiène qui est un peu trop connoté pour nous, mais c'est sûr qu'il y a, et c'est même pas que la douche, c'est aussi la possibilité de se reposer. Quand on est toute la journée dehors, avoir la possibilité de s'asseoir dans un endroit où il fait pas trop chaud, pas trop froid, d'où la bibliothèque municipale, c'est pour ça qu'on y va aussi maintenant. En fait, c'est fondamental. Et donc, que nous, on fasse un peu de lobbyiste, enfin, on fasse du lobby maintenant, parce que je crois qu'on dit. Auprès des institutions publiques en disant les archives municipales, vous avez des toilettes, les musées, vous avez des toilettes, ouvrez-les, enfin je veux dire ouvrez-les, faites en sorte, la bibliothèque municipale par exemple, à toutes les ouvertures, donc à 10h du matin, il y a une queue devant les toilettes, ce qui sous-entend que les gens se lavent. Et ben, acceptons le fait que ça se transforme en douche, pas beaucoup d'investissement pour transformer un toilette en douche sur les 50 qu'il y a dans la bibliothèque. Et ça n'a aucune, il n'y a pas de valeur de fonctionnement, il n'y a pas plus d'argent. Voilà. Mais ça, c'est inentendable pour énormément de petits publics qui disent « Ah non, mais si on met une douche, ça va être sale. » En fait, les gens se lavent déjà dans le lavabo. Donc en fait, juste soyons un petit peu cohérents et en fait, rendons la vie un peu plus sympa. C'est même pas sympa, c'est juste se dire « ça a lieu ». Donc partons de ce qui existe, quoi. Et oui, les toilettes, évidemment. Et puis les toilettes, c'est une vraie question. Enfin, vraiment, c'est une vraie question. Elle sait que c'est fermé la nuit, hein. Ça se trouve, c'est pareil à Grand Dame. Donc, quand on sait ça, juste. Et quand on vit dehors.
Voilà. Ouais, on va fermer la nuit, mais c'est vrai que là. Je crois que c'est. J'arrive plus à trouver le nom de l'association, mais qui refait une cartographie des points de WC, par exemple, et d'accès à l'eau sur la ville de Villeurbanne. Et en discutant avec eux, j'avais intégré aussi les WC dans les institutions publiques, dans la mairie, parce que c'est des WC où n'importe qui peut aller, du fait que c'est des lieux où on peut aller. Et pas que les WC déco ou autres, pas citer les marques, mais qui sont disséminés dans la ville. Et c'est de se dire que dès qu'il y a un bâtiment public, enfin, ouvert au public, évidemment, on peut y aller, en fait. Et il faut le répertorier comme lieu possible ressource. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on essaie de le mettre en réseau. Sur la question des douches, on essaie justement le bain douche du 21e siècle. C'est pas un bâtiment, c'est un réseau de bâtiments avec différentes typologies qui vont répondre à différentes manières d'avoir envie de prendre soin de soi. C'est-à-dire que au bain douce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des gens qui viennent, on leur fournit serviettes, savon, etc. Puis il y a des gens qui viennent avec tout. En fait, ils ont juste besoin d'une douche isolée, mais ils ont leur serviette, ils ont leur savon, etc. Donc il n'y a pas besoin de distribuer. D'où cette idée d'ouvrir une douche dans un bâtiment déjà ouvert au public. Il y a l'idée du camion douche. Et donc on a fait en sorte qu'il va y avoir une borne foraine, un accès, il va pouvoir se pluguer plus facilement, etc. Donc c'est tout ça en fait, c'est cet ensemble de dispositifs différents qui créent le réseau à l'échelle territoriale. Et c'est là où ça prend son sens en fait. Parce que sinon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui font 3 heures de train pour venir prendre une douche, ça n'a pas de sens. Je vais passer du temps.